Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique qui sera donc la première de cette année nouvelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi tout d'abord vous exprimer ma joie de vous retrouver et de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Traditionnellement, j'aurais pu vous faire un panorama des choses qui changent au 1er janvier, mais comme toutes les télés et la presse écrite le font très bien, on va faire autre chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler des évolutions récentes du droit autour des enfants et des mineurs. Pour commencer, alors, on ne s'est pas moqué de vous, hein, parce que vous aurez un festival, cours de cassation, conseil d'État, cour européenne des droits de l'homme. RPH, c'est vraiment une radio qui va aux sources les plus nobles. Pour commencer, une ordonnance du 5 octobre 2022 qui a été prise en application d'une loi du 21 février 2022 et qui vise à réformer l'adoption. Elle vient d'entrer en vigueur le 1er janvier 2003, donc maintenant. Elle poursuit trois objectifs principaux, rendre plus d'enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants. C'est vrai que l'adoption en France, c'est quand même un chemin de croix, parfois un vrai parcours du combattant. La loi donne une nouvelle définition de l'adoption simple et de l'adoption internationale, et elle assouplit les conditions de l'adoption plénière et renforce le statut des pupilles de l'État. Les pupilles de l'État, ce sont les enfants dont un parent au moins est mort pour la France. Je vous rappelle que dans l'adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et entre aussi dans sa nouvelle famille. Tandis que dans l'adoption plénière, l'adopté quitte définitivement sa famille d'origine pour entrer dans sa nouvelle famille. C'est donc pas pareil. Au sujet de l'adoption, d'ailleurs, la Cour de cassation vient de préciser les conditions du délaissement. Alors le délaissement, c'est quoi? C'est lorsque le titulaire de l'autorité parentale, le plus souvent c'est un des parents, ne s'occupe plus de son enfant lorsque celui-ci a été placé par un juge pour enfants. C'est très important car si le délaissement est prononcé par le juge d'affaires familiales, le parent perd l'autorité parentale et l'enfant est placé sur une liste à l'adoption. La Cour de cassation, par un arrêt du 22 novembre 2022, vient de préciser que caractérise une situation de délaissement au sens de l'article 381-1 du Code civil, le fait pour une mère de ne pas s'être saisie d'une part du droit de visite médiatisé organisé dès la naissance en vue de la soutenir dans la création d'un lien avec son enfant, mettant en échec celui-ci par son inconstance dans l'exercice de ce droit et par son absence de prise en compte des besoins de l'enfant. D'autre part, du droit de correspondance médiatisée instauré au moment de la suspension du droit de visite n'ayant plus posé aucun acte concret, permettant d'attester des velléités de reprendre une relation avec son enfant. C'est une situation qui est quand même très triste, puisque cette jeune femme donc avait abandonné son enfant à la naissance. Enfin, elle ne l'avait pas vraiment abandonné, il avait été placé et malheureusement, comme elle n'a pas eu les ressources de s'en occuper un peu, cet enfant est donc placé sur la liste des adoptions par délaissement. Alors, puisqu'on parle de parents défaillants, on notera cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire contre l'Italie. C'est un arrêt du 10 novembre 2022. Et la Cour européenne des droits de l'homme a, le 10 novembre 2022, jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant l'emporte sur l'intérêt de son père violent à maintenir des contacts avec lui sous l'angle de l'article 8 de la CEDH. En l'espèce, je ne vous lis pas tout l'arrêt, évidemment c'est très long. Le père était toxicomane et alcoolique, il était accusé de mauvais traitements et de menaces lors des rencontres avec ses enfants. La mère avait invoqué le manque de sécurité des rencontres pour refuser d'y prendre part et elle a été considérée comme un parent, j'ouvre les guillemets, hostile aux rencontres avec le père par les juridictions italiennes qui ont alors suspendu l'autorité parentale de la mère, mais maintenu les visites du père. Et bien évidemment, la Cour européenne a condamné l'Italie en considérant que cette décision n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, bien évidemment. Vous aurez noté donc qu'en présence de deux intérêts, celui du père de maintenir des liens avec son enfant et celui de l'enfant à ne pas en avoir avec un père violent, c'est celui de l'enfant qui l'emporte car on dit toujours que l'intérêt de l'enfant est supérieur. Alors justement, puisque l'on évoque l'intérêt supérieur de l'enfant, nous allons faire un tour vers le porno qui est sous les feux des projecteurs. Alors actuellement, les sites de diffusion de contenu pornographique sont sous la sellette en raison de leur trop grande facilité avec laquelle les mineurs peuvent y accéder. Naturellement, je ne suis pas familier de ces sites, vous vous en doutez bien, mais vous savez tous qu'il suffit de cliquer « J'ai 18 ans » et vous y accédez sans aucune difficulté. À ce sujet, donc, par un arrêt du 29 novembre 2022, c'est récent, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative française, c'est un peu la Cour de cassation des tribunaux administratifs, a rejeté les recours formulés par Pornhub, Xvideo et XNXX, on met jamais assez de X dans ce genre de choses, contre l'ARCOM. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et donc, cette décision fait suite aux mises en demeure prononcées début 21 par l'ARCOM à l'encontre de ces plateformes, sommées en vain depuis décembre, d'empêcher l'accès des mineurs à leur contenu. Faute de réaction des sites, l'ARCOM avait demandé au tribunal judiciaire d'ordonner leur blocage par les opérateurs. Les sites pornographiques, notamment Pornhub, avaient réagi le 4 octobre 2022 en transmettant une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Question qui a donc été rejetée. Et une question prioritaire de constitutionnalité, c'est quoi ? C'est une réforme de l'époque de Nicolas Sarkozy qui permet de demander par le biais d'une juridiction de saisir le Conseil constitutionnel quand on estime qu'une loi qui n'avait pas été soumise à la censure du Conseil constitutionnel à l'époque viole une liberté fondamentale. Bon, la liberté fondamentale de mettre du porno sous les yeux des mineurs aura quand même peut-être du mal à se faire entendre. De façon pragmatique, Charlotte Caubel, qui est secrétaire d'État aux droits de l'enfant, s'est exprimée sur le sujet et sur la manière d'interdire l'accès aux sites pornographiques aux mineurs. Elle envisagerait le recours à la carte bancaire, c'est-à-dire que vous devriez enregistrer une carte bancaire. Selon elle, elle dit « pour 0 ou 1 euro, l'utilisation de la carte bancaire pourrait agir comme un filtre permettant un accès sûr aux sites pornographiques ». On peut penser que c'est possible, mais beaucoup de mineurs, malheureusement, ont accès à des cartes bancaires et souvent celles de leurs parents. Dernier point, puisque l'on parle de Charlotte Caubel et un scandale chassant l'autre, après les EHPAD, les familles d'accueil. La secrétaire d'État a annoncé que des contrôles renforcés seront mis en place pour les éducateurs et familles d'accueil. En effet, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un reportage consacré aux défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Dans le magazine Zone Interdite de M6, qui avait donc eu un peu le même retentissement que celui qui avait été fait sur les EHPAD suite à l'enquête de ce monsieur, de ce journaliste dont j'ai oublié le nom malheureusement et qui a fait un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Elle explique que la mesure qui est prévue par la loi Taquet, adoptée en début d'année par le Parlement, s'appliquera le 1er novembre 2022, donc elle s'y applique maintenant. Cette mesure prévoit que les antécédents judiciaires des éducateurs et des familles d'accueil seront systématiquement contrôlés avant de se voir confier des enfants en danger. Tout professionnel au contact d'un enfant, mais aussi tout bénévole dans son entourage, conjoint ou enfant de plus de 13 ans de l'accueillant familial, devront faire l'objet de contrôles réguliers via le casier judiciaire et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, FIJAIS. Plusieurs dizaines de personnes vont être recrutées auprès des administrations qui seront au niveau des préfets et du procureur de la République pour renforcer les contrôles au plus près des établissements et des services accueillant les enfants. Ces personnes seront formées sur 3 ans dans les 2 années à suivre. Et c'est important puisque là aussi, la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour n'avoir pas su protéger un enfant qui avait été placé en famille d'accueil et subissait des viols réguliers de la part du père de la famille d'accueil. Voilà, vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPH Sud dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète, en tout cas pour autant que Dieu me prête vie. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Ipaly, avocat, à écouter les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.